Chapitre 6 Les femmes de Kénith. Celle qui se souvient et Molkin ne se disputaient pas. Shriver n'était pas loin de le regretter. Cela aurait signifié qu'un des deux au moins était parvenu à une décision. Mais ils discutaient sans fin de ce qui s'était passé, de ce qui pourrait se passer et de ce que cela voudrait dire. Durant les marées qui suivirent le refus d'obéissance du nœud de Molkin, les serpents s'étaient traînés derrière Foudre et avaient attendu de voir le déroulement des événements. Foudre elle-même leur parlait à peine, malgré les questions incessantes de celle qui se souvient. La créature argentée semblait enfermée dans son propre dilemme. Irritée par l'indécision, Shriver commençait à s'énerver. Chaque marée lui laissait un sentiment de vide. Le temps s'écoulait, traînant les serpents loin derrière. Elle perdait des forces et du poids. Pire, elle n'arrivait plus à penser correctement.
« Je dépéris !»
dit-elle à Sessuréa en se laissant balloter par le flot. Et ils étaient ancrés l'un à côté de l'autre pour la nuit. Et il y avait un méchant courant à cet endroit qui remuait constamment la vase et troublait l'eau.
« Marée après marée, nous suivons ce navire. Dans quel but ? Molkin et celle qui se souvient nagent toujours dans son ombre et ne parlent qu'entre eux. Les toxines qu'ils gaspillent sur la coque du navire ont un goût bizarre et ne nous apportent aucune proie. Ils ne cessent de répéter qu'il faut être patient. Je suis patiente, mais je n'ai plus de résistance. Quand ils auront pris une décision, je serai trop faible pour voyager avec le nœud. Qu'attend donc Molkin ?
Sessuréa ne répondit pas tout de suite. Il y avait plus d'étonnement que de reproche dans sa voix quand le serpent bleu déclara enfin
« Je n'aurais jamais imaginé t'entendre critiquer Molkin. Voilà longtemps que nous le suivons et je n'ai jamais mis sa sagesse en doute, »
répondit-elle. Elle baissa brièvement les paupières pour éviter une ouache de vase.
« S'il pouvait reprendre le commandement, lui je le suivrais jusqu'à ce que ma peau perce mes os. Mais aujourd'hui il se soumet à la volonté de celle qui se souvient et du navire argenté. J'accepte la sagesse de celle qui se souvient, mais qui est-elle, cette créature argentée, pour que nous nous attardions ainsi à lui obéir alors que nous manquons notre saison de nidification ?»« Non pas qui est-elle, mais qu'est-ce qu'elle est ?»
Molkin apparut soudain devant eux. Ses ocelles luirent faiblement dans l'eau trouble. Il s'ancra puis enroula des anneaux autour d'eux. Avec reconnaissance, Shriver relâcha sa prise sur le rocher. Elle se reposerait mieux dans l'étreinte de Molkin.
« Je suis fatiguée, » dit-elle en s'excusant. « Je ne doute pas de toi, Molkin. »
Le chef lui dit doucement,
« Tu n'as pas douté de moi, même quand j'ai vacillé. Tu as payé cher cette loyauté, je le sais. » Je crains que le prix que nous ayons tous à payer pour mon indécision soit trop élevé. Celle qui se souvient me l'a déjà fait remarquer. Notre nœud est surtout composé de mâles. Nous ne serons guère avancés quand nous aurons filé nos cocons et que nous aurons éclos si nous n'avons pas de reine à cause de notre retard.
« Notre retard ?»
demanda Shriver à mi-voix.
« C'est le sujet de nos discussions. Chaque marée nous affaiblit. Pourtant, sans guide, il est inutile de continuer car ce monde ne correspond pas à nos souvenirs. Même celle qui se souvient n'est pas sûre du chemin à suivre. Nous avons besoin que Foudre nous guide et nous sommes obligés de l'attendre. Faibles comme nous le sommes aujourd'hui, nous aurons besoin de sa protection.
Pourquoi nous fait-elle attendre ?
Sessuréa, direct comme toujours, tranchait dans le vif.
Molkin émit un son écœuré et un nuage de toxines s'échappa de sa crinière.
« À cela, elle nous a donné un tas de raisons et aucune. Celle qui se souvient pense qu'elle dépend plus de l'aide capricieuse des humains qu'elle ne veut l'admettre.
Comme je vous l'ai dit, tout revient à découvrir ce qu'elle est vraiment. Elle soutient qu'elle est un dragon. Nous savons qu'il n'en est rien.
Elle n'est pas un dragon ? Gronda Cessurea consterné. Alors, qu'est-ce qu'elle est ?
Quelle importance !
Gémit Shriver.
Pourquoi ne peut-elle simplement nous aider comme elle l'a promis ?
Molkin s'exprimait sur un ton apaisant. Ses paroles n'en étaient pas moins alarmantes.
Pour nous aider, il faudrait qu'elle mendie le secours des humains. Tant qu'elle se prétend dragon, je ne crois pas qu'elle puisse s'abaisser à cela.
Il parlait avec lenteur.
Pour être en mesure de nous assister, elle doit accepter ce qu'elle est. Celle qui se souvient l'y a exhorté. Elle connaît bien l'un des deux pattes à bord du navire. Yémin l'a aidé à échapper aux autres. En le touchant, elle l'a connu. Il avait une grande connaissance du navire, des pensées que celle qui se souvient n'a pas pu comprendre tout à fait à ce moment-là. Maintenant, elle commence à coordonner les faits. Nous cherchons à éveiller l'autre partie du navire, à lui donner la force de se dégager. C'est un long processus de l'inciter à se réveiller. Elle est à la fois faible et hésitante, mais dernièrement, elle a commencé à remuer. Nous pouvons encore réussir.
Kenith tint le plateau en équilibre d'une main et de l'autre tourna la clé dans la serrure, ce qui n'était pas commode car un léger tremblement lui faisait perdre sa dextérité. Une nuit et un jour s'étaient écoulés depuis sa dernière visite. Il n'avait pas dormi, il avait à peine mangé. Il avait évité le gaillard d'avant et la figure de proue, il avait évité Éta et Yémin. Il ne pouvait tout à fait se rappeler comment il avait passé ces heures-là. Il avait été quelque temps dans la mâture. Sorcor lui avait fait présent d'un pilon avec une rainure à l'extrémité. Il l'avait essayé pour la première fois et en avait été enchanté. Dans le nid de pie, il pouvait embrasser son domaine tout entier. Les serpents s'ébattaient à la crête des vagues autour du navire que la brise poussait. Visage au vent, il avait rêvé, savourant inlassablement les moments qu'il avait passés seul avec Althea Vestrit. Ce n'était ni la discipline ni l'abstinence qui l'avaient empêché de la rejoindre. L'attente était en elle-même un plaisir. Il avait attendu, avant de revenir ici, que sa passion arrivât à son comble. À présent, il était devant sa porte, frissonnant de désir. Allait-il la reprendre ? Il n'avait pas encore décidé. Si elle était assez éveillée pour pouvoir l'accuser, il avait l'intention de nier. Il se montrerait si aimable, si soucieux d'elle et de ses peurs. On éprouve un tel sentiment de puissance quand on exerce son emprise sur la réalité d'autrui. Il ne s'en était jamais rendu compte auparavant.
Quel terrible cauchemar ! Chuchota-t-il sur un ton de feinte compassion, et il eut grand-peine à réprimer le sourire qui s'élargissait graduellement.
Il recomposa sa physionomie et tâcha de se calmer. Il respira profondément, ouvrit la porte et pénétra dans l'obscurité. L'après-midi d'hiver touchait à sa fin et éclairait vaguement la pièce. Elle était pelotonnée sous les couvertures, sur la couchette, profondément endormie. La cabine empestait le vomi. Il s'appuya sur sa béquille pour fermer la porte en fronçant le nez.
Voilà qui n'allait pas du tout. Pas très attirante, cette odeur. Cela gâchait tout. Il faudrait lui administrer une dose supplémentaire de pavot et de mandragore et faire récurer la chambre par le mousse pendant qu'elle dormirait. Amèrement déçu, il posa le plateau sur la table.
Elle le frappa de tout son poids entre les épaules. Il tomba en entraînant avec lui plateau, béquille, plat qui s'écrasèrent avec fracas. Il se cogna la tête au bord de la table. Elle le saisit à la gorge. Il se tordit, collant le menton à la poitrine pour empêcher qu'elle l'étrangle. Elle avait un genou au creux des reins de Kenneth, mais quand il roula, elle tomba avec lui. Les réflexes d'Althea étaient émoussés par les effets de la drogue. S'il avait eu ses deux jambes, elle n'aurait pas eu la moindre chance contre lui. Il a réussi à lui attraper le poignet avant qu'elle ne se dégage d'une secousse. Elle se releva tant bien que mal, haletant et vacillant, et recula alors qu'il se redressait sur ses mains et son genou. Les yeux d'Althea étaient élargis, très noirs. La béquille était hors d'atteinte. Il s'en rapprocha tout doucement.
« Salaud !»
haleta-t-elle, enragée.
« Espèce de brute !»
Il feignit l'ahurissement.
« Althea, qu'est-ce qui vous prend ? Vous m'avez violée !»
dit-elle d'une voix enrouée. Puis elle haussa le ton jusqu'à crier, sans se soucier qu'on l'entende.
« Vous m'avez violée ! Vous avez tué mon équipage, brûlé mon navire, vous avez tué Brashen, vous avez emprisonné Vivacia, tout ça c'est votre faute !»« C'est absurde ! Ma chère, vous perdez la tête. Calmez-vous, il ne faut pas vous déshonorer devant tout l'équipage !»
Il la vit qui cherchait une arme des yeux. Il avait sous-estimé le danger qu'elle représentait. Malgré les effets tardifs de la drogue contre lesquels elle luttait, ses muscles se nouaient convulsivement. Il reconnut l'expression meurtrière. Il l'avait aperçue dans son propre miroir. Il fit un brusque mouvement vers sa béquille, mais au même moment, elle bondit non sur lui mais vers la porte. Elle manipula maladroitement la clenche, ouvrit la porte à toute volée, heurta le chambranle en sortant, les jambes chancelantes. Il la vit se cogner à la cloison, se retenir, puis s'engager en titubant dans la coursive. La figure de proue. Elle allait essayer de rejoindre la figure de proue. Il mit la béquille sous son aisselle, céda du bord de la table et se hissa pour se relever. Elle aurait une surprise si elle atteignait le gaillard d'avant. Il n'y aurait pas de Vivacia pour l'aider. Kenneth fut tenté de la laisser aller, mais il était impossible qu'elle tempête et délire devant l'équipage. Et si Eta ou Yémin l'entendaient ? Il gagna la porte et jeta un coup d'œil. Althea avait ralenti. Elle s'agrippait au mur et continuait à avancer en trébuchant. Ses cheveux noirs et ternes lui voilaient le visage. Elle portait les habits de Yémin, souillés de nourriture et de vomi. Elle avait dû se réveiller, s'habiller et se pelotonner là pour l'attendre. Elle en avait de l'idée, étant donné la dose de pavot qu'il lui avait administrée. Il l'admira presque. Et il faudrait augmenter les doses. La silhouette d'un matelot apparut dans l'encadrement de la porte au bout de la coursive. Kenneth haussa la voix.
« Retiens-la. Ramène-la à sa chambre. Elle n'est pas bien. Elle m'a attaqué. »
La silhouette fit deux pas dans la coursive obscure et Kenneth s'aperçut alors de son erreur. Le matelot, c'était Yémin.
« Tante Althea ?»
fit-il incrédule. Il lui offrit son bras pour la soutenir, mais elle le dédaigna. Kenny douta qu'elle ait reconnu Yémin. Mais elle leva le bras et pointa une main tremblante vers Kenneth.
« Il m'a violée !»
Elle rejeta la tête en arrière pour regarder le garçon à travers ses cheveux pendants.
« Et mon navire est enfermé dans le noir. J'ai été droguée. Je suis malade. Aidez-moi. Aidez-le !»
Elle se tut. À court de mots comme de force, elle s'affaissa contre le mur, se laissa glisser devant Yémin glacé d'horreur. Sa tête ballottait comme celle d'un chat empoisonné. À la consternation de Kenneth, un autre matelot survenait. Alors, comble de malheur, il entendit derrière lui la voix d'Eta.
« Qu'est-ce qu'elle dit, cette garce ? »
demanda-t-elle en furie. Kenneth se tourna vivement vers elle.
« Elle est malade. Elle dit n'importe quoi. Elle m'a attaqué. »
Il secoua la tête.
La perte de ses compagnons semble l'avoir rendue folle.
Les yeux d'Eta s'élargirent.
Kenneth, tu saignes ?
S'exclama-t-elle horrifiée. Il porta la main à son front et ses doigts se tachèrent de rouge. Il s'était cogné la tête plus rudement qu'il n'avait cru.
Ce n'est rien, ça va aller.
Il se ressaisit et déclara d'une voix à la fois impérieuse et soucieuse,
Yémin, fais attention, mais sois gentil avec elle. Elle ne sait plus ce qu'elle dit. Voir Parangon brûlé lui a troublé la cervelle.
Je suis tout à fait saine d'esprit, espèce de salaud, violeur, assassin!
Rugit Althea. Elle se débattit, essaya de se relever.
Tante Althea!
Yémin était stupéfié. Kénith lisait l'horreur sur son visage. Il s'agenouilla et aida Althea à se remettre debout.
« Tu as besoin de te reposer, »
suggéra-t-il avec compassion.
« Tu as subi un grand choc. »
Elle se retint à ses épaules et le scruta comme s'il était un insecte. Il la dévisagea, consterné. En dépit de leurs expressions respectives, ils se ressemblaient beaucoup. Kénith songea aux antiques représentations de ça, masculine et féminine, face à face sur les anciennes pièces de monnaie. Alors Althea tourna son regard dégoûté vers Kénith. Il devina son intention et il était prêt à l'avoir chargée. Il pensait pouvoir parer ses coups émoussés, mais il n'en eut même pas l'occasion. Avec un cri de rage, Etta bondit devant lui. La putain était plus grande qu'Althea, en bonne condition physique et plus experte au combat. Elle renversa sans effort la femme de Terrilville, puis se mit à califourchon sur elle et la cloua au sol. Althea rugit de fureur et se débattit, mais Etta la maîtrisa facilement.
« La ferme !»
cria la putain d'une voix perçante.
« Ferme ta gueule de menteuse! Je me demande bien pourquoi Kénith s'est donné la peine de te sauver la vie! Ferme-la ou je te casse les dents !»
Kénith contemplait la scène avec une fascination horrifiée. Il avait déjà vu des femmes se battre. À Partage, c'était un spectacle courant qu'il avait toujours jugé sordide. Sans savoir pourquoi, il s'en sentait humilié.
« Etta, lève-toi. Yémin, ramène Althea dans sa chambre. »
ordonna-t-il. Sous le poids d'Etta, Althea dit en haletant.
« Je suis une garce. Il m'a violée, ici, sur mon propre navire. Et vous, une femme, vous le défendez ?»
Elle tourna la tête et leva des yeux fous vers Yémin.
« Il a enseveli notre navire. Comment peux-tu le regarder et ignorer ce qu'il est? Comment peux-tu être aussi stupide ?»« Ferme-la! Ferme-la !»
La voix d'Etta monta, suraiguë, hystérique. Elle gifla Althea à toute volée et le coup résonna dans la coursive.
« Etta, arrête, j'ai dit !»
s'écria Kénith, atterré. Il saisit la main levée de la putain et essaya de la tirer pour dégager Althea. Mais Etta continua à frapper l'autre de sa main libre et à la complète stupéfaction de Kénith, elle éclata en sanglots. Il leva les yeux et découvrit 5 ou 6 matelots massés au bout de la coursive qui contemplaient la scène bouche bée.
« Séparez-les »
fit-il sèchement. Quelques hommes finirent par avancer pour obéir. Yémin prit Etta par le bras et la tira. Chose étonnante, elle ne réagit pas et se laissa faire.
« Raccompagne Etta dans ma chambre, jusqu'à ce qu'elle se calme !»
ordonna-t-il à Yémin.
« Vous autres, remettez Althea dans sa cabine et fermez la porte à clé. Je m'occuperai d'elle plus tard. »
La brève lutte avec Etta avait épuisé la résistance d'Althea. Elle avait les yeux ouverts mais sa tête pendait mollement quand 2 hommes la relevèrent et la traînèrent.
« Je vous tuerai !»
promit-elle haletante à Kénith en passant devant lui. Et elle le pensait vraiment. Il tira un mouchoir de sa poche et se tapota le front. Le sang plus sombre se coagulait déjà. Quelle tête il devait avoir! La perspective d'affronter Etta ne le réjouissait guère, mais c'était inévitable. Il n'allait pas se promener dégoulinant de sang avec ses habits tachés. Il se redressa. Les matelots revenaient après avoir enfermé Althea et il réussit à grimacer un sourire. Il secoua la tête d'un air de conspirateur.
« Ces femmes, ce n'est vraiment pas leur place sur un navire. »
Un des hommes lui rendit un sourire goguenard, mais les autres avaient l'air gênés. Voilà qui n'allait pas. Etta était-elle à ce point aimée de l'équipage? Il faudrait remédier à cela. Il faudrait remédier à cette situation. Comment en était-on arrivé à ce désordre? Il tira sur sa veste froissée et brossa sa manche.
« Capitaine Kénith, commandant !»
Il leva les yeux excédés. Encore un matelot affolé.
« Qu'est-ce qu'il y a cette fois ?
fit-il hargneux. L'homme se lécha les lèvres.
« C'est le navire, commandant, la figure de proue. Elle dit qu'elle veut vous voir. »
Le matelot déglutit et poursuivit.
« Elle dit... Dites-lui de venir immédiatement, tout de suite.
Sauf votre respect, commandant, mais c'est comme ça qu'elle a dit.
Vraiment. »
Kenneth parvint à garder un ton froidement amusé.
« Eh bien, tu peux lui signaler, sauf son respect, que le capitaine est occupé ailleurs, mais qu'il viendra la voir sous peu, dès qu'il lui sera possible. »«
Commandant !»
L'homme commença à bredouiller une protestation. Kenneth le transperça d'un regard glacial.
« Bien, commandant !»
fit-il enfin. Il s'éloigna en traînant les pieds. Kenneth ne l'envia pas d'aller faire la commission. Mais il ne pouvait tout de même pas se présenter devant la figure de proue dans cet état, et encore moins tolérer qu'un simple matelot le voie courir aux ordres du navire. Il leva une main pour lisser sa moustache.
« Tout doux, du calme, comme ça. Reprends les choses en main, »
se conseilla-t-il à lui-même. Mais à son poignet, une petite voix narquoise se fit entendre en contrepoint.
« L'Est, c'est la panique, tout se détraque. À la fin, cher monsieur, tu ne pourras même plus te reprendre en main. Pas plus qu'Igrot quand il a trouvé la mort dans tes mains. Car quand tu es devenu la bête, petit Kenneth, tu t'es condamné à partager le sort de la bête.
« Etta, Etta, je vous en prie !»
suppliait Yéma, irrésolu, tiraillé. Il aurait dû s'occuper d'Althea. Elle avait paru malade, l'esprit dérangé, mais comment pouvait-il laisser Etta dans cette détresse? Elle ne l'écoutait pas. Elle continuait à sangloter éperdument dans les oreillers. Il n'avait jamais vu personne pleurer ainsi. Il y avait une violence terrible dans ses sanglots entrecoupés, comme si son corps cherchait à se purger du chagrin, mais la peine était trop profonde pour être soulagée par les larmes.
« Etta, je vous en prie, Etta !»
répétait-il. Elle ne semblait pas même l'entendre. Timidement, il lui tapota le dos. Il avait de vagues souvenirs de sa mère tapotant ainsi sa petite sœur, quand Malta était si absorbée dans une crise de colère qu'elle ne pouvait se calmer.
« Là, là !» dit-il pour la réconforter. « C'est fini maintenant, tout est fini. »
Il faisait un petit rond de la main pour l'apaiser.
Elle respira profondément. « C'est fini, »
confirma-t-elle en éclatant de plus belle en sanglots. Cela ressemblait si peu à Etta qu'il avait l'impression de consoler une inconnue. Sa conduite était tout aussi incompréhensible que celle d'Althea. La scène avec Althea avait été épouvantable. Sa tante n'allait pas bien du tout. Il fallait qu'il lui parle, sans tenir compte des ordres de Kenneth. Sa folle accusation de viol et ses propos étranges au sujet d'un navire enseveli faisaient craindre pour sa santé mentale. Il n'aurait jamais dû s'incliner devant l'interdiction de Kenneth. L'isolement ne l'avait nullement reposé. Elle était restée seule avec son chagrin. Comment avait-il pu être aussi stupide? Mais Etta continuait à pleurer et il ne pouvait pas la laisser seule. Pourquoi les paroles insensées d'Althea l'affectaient-elles à ce point? Alors la réponse lui apparut. Elle était enceinte. Les femmes se conduisent toujours bizarrement quand elles sont enceintes. Il se sentit presque étourdi de soulagement. Il l'entoura de son bras et lui parla à l'oreille.
« Ce n'est rien, Etta. Pleurez un bon coup. » Ces tempêtes d'émotions sont naturelles dans votre condition. »
Elle s'assit brusquement sur le lit, la figure marbrée de taches rouges, les joues luisantes de larmes. Puis, elle prit son élan. Il vit venir son poing serré et réussit presque à esquiver le coup qui percuta la pointe du menton, lui fit claquer les dents et voir des étoiles. Il recula la main sur la mâchoire.
« C'était pourquoi ? »
demanda-t-il à Uri.
« Pour ta bêtise, pour ton aveuglement. » Et il paraît que seules les femmes peuvent être aveugles à ce point.
Tu es un imbécile, Yema Vestrit. Je me demande bien comment j'ai pu perdre mon temps avec toi. Tu sais tellement de choses, mais tu n'as rien appris du tout. Rien.
Son visage se ratatina à nouveau. Elle enfouit la tête dans les genoux et se balança d'avant en arrière comme un enfant inconsolable.
Comment ai-je pu être aussi sotte?
Gémit-elle. Elle se redressa et tendit la main vers lui. Hésitant, il prit place à côté d'elle sur le lit. Quand il voulut lui tapoter l'épaule, elle se réfugia dans ses bras. Elle posa la tête sur son épaule et recommença à pleurer, secouée de sanglots. Il la tint contre lui, avec précaution d'abord, puis plus fermement. Il n'avait jamais serré une femme dans ses bras.
« Etta, ma chérie !»
Il osa caresser ses cheveux brillants. La porte s'ouvrit. Yema sursauta, mais ne la lâcha pas. Il n'y avait pas de quoi avoir honte, aucune raison de se sentir coupable.
« Etta n'est plus elle-même, »
dit-il à Kenith précipitamment.
« En effet, ça nous reposerait peut-être si elle se conduisait mieux que la vraie Etta, »
rétorqua-t-il grossièrement.
« Se bagarrer dans la coursive comme un vulgaire voyou !»
Etta ne leva pas la tête de l'épaule de Yema et Kenith poursuivit sur un ton sarcastique.
« J'espère bien que je ne vous interromps pas tous les deux. » « J'ai la figure en sang, les vêtements dégoûtants, mais ne vous désolez pas pour si peu. »
Au grand étonnement de Yema, Etta leva lentement la tête. Elle regarda Kenith comme si elle ne l'avait jamais vu. Quelque chose passa entre eux dans ce regard, quelque chose dont Yema était exclue. Elle parut brisée, mais elle ne pleurait plus.
« J'ai fini, »
dit-elle d'une voix cassée.
« Je me lève, je vais. »«
Ne te donne pas cette peine, »
grogna Kenith.
« Je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. Va voir Yola. Dis-lui de faire signe à Sorkor qu'il envoie un canot pour toi. Je crois qu'il vaut mieux que tu restes quelque temps à bord de la Marietta. »
Yema s'attendait à une explosion, mais Etta garda le silence. Elle paraissait changer. Il s'en aperçut progressivement. D'habitude, quand elle regardait Kenith, ses yeux brillaient, elle rayonnait d'amour. Maintenant, elle le dévisageait et c'était comme si la vie s'écoulait d'elle. Quand elle parla enfin, sa capitulation était complète.
« Tu as raison. Oui, cela vaudra mieux. »
Elle leva les mains et se frotta la figure comme si elle s'éveillait d'un long rêve. Puis, sans un mot ni un regard, elle quitta la chambre. Yema la suivit des yeux.
C'était impossible, il n'y comprenait rien.
« Eh bien ?»
demanda Kenith sur un ton glacial. Il le toisa de son regard bleu, des pieds à la tête. Yema se redressa. Il avait la bouche sèche.
« Commandant, vous ne devriez pas renvoyer Etta, même pour sa sécurité. En revanche, on devrait débarquer Altea le plus rapidement possible, elle n'a plus sa raison. » « Je vous en prie, commandant, ayez pitié d'une pauvre femme et laissez-moi la renvoyer chez elle. Nous ne sommes qu'à quelques jours de partage. Je peux payer son passage sur l'un des navires marchands qui viennent à partage. Plus tôt elle sera partie, mieux cela vaudra pour nous tous. »«
Vraiment ?»
fit Kenith sèchement.
« Et qu'est-ce qui te porte à croire que tu as ton mot à dire dans ce que je fais d'Altea ?»
Yema garda le silence. Ses paroles le laissaient pantois.
« Elle m'appartient, Yema. » Et j'en ferai ce que bon me semble. »
Kenith se détourna et commença à se dévêtir.
« Maintenant, va me chercher une chemise. C'est tout ce que je te demande pour l'instant. Tu ne penses pas, tu ne décides pas, tu ne supplies même pas. Va me chercher une chemise propre et sors-moi des culottes, et trouve-moi quelque chose pour nettoyer cette entaille. »
Tout en parlant, il déboutonnait sa chemise souillée. Sa veste gisait déjà par terre. Sans même y penser, Yema se mit en devoir d'obéir. La colère qui se propageait en lui oblitérait toute réflexion. Il étala les vêtements propres, puis présenta une serviette et de l'eau fraîche. L'entaille était petite et déjà refermée. Kenith essuya le sang de son front et jeta négligemment la serviette par terre. Yema la ramassa sans mot dire. Alors qu'il la rapportait à la cuvette, il se sentit assez maître de lui pour reprendre la parole.
Commandant, ce n'est pas le moment de renvoyer Eta. Elle devrait être ici, avec vous.
Je crois que non,
répondit Kenneth avec nonchalance. Il tendit ses poignets pour que Yémin lui agrafe ses manchettes.
Je préfère Althea. J'ai l'intention de la garder, Yémin. Mieux vaut te faire à cette idée.
Yémin était sidéré.
Vous allez retenir Althea ici, contre sa volonté, alors que vous consignez Eta sur le navire de Sorcor?
Ce ne sera pas contre sa volonté si c'est ça qui te tracasse. Ta tante a déjà montré qu'elle me trouvait bel homme. Avec le temps, elle finira par accepter son rôle à mes côtés. Le petit incident d'aujourd'hui était un moment de folie. Il lui faut simplement du temps pour se reposer et s'adapter aux changements de sa vie. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour elle.
Je vais la voir, je vais lui parler. Qu'est-ce que c'est ?
Yémin leva la tête.
Je n'ai rien entendu,
répondit Kenneth avec dédain.
Peut-être devrais-tu accompagner Eta sur la Marietta jusqu'à ce...
À son tour, il s'interrompit au milieu de la phrase. Ses yeux s'élargirent.
Vous l'avez senti aussi, dit Yémin sur un ton accusateur. Une lutte, à l'intérieur même du navire.
Je n'ai rien senti de tel,
rétorqua Kenneth avec véhémence.
Il se passe quelque chose, déclara Yémin. Foudre lui avait appris à redouter toute forme de communication avec le navire. Il perçut un tumulte, un tourbillon, et pourtant il craignit de se tendre vers lui.
Je ne sens rien,
répéta le pirate méprisant.
C'est dans ta tête. Kenneth, Kenneth!
C'était un appel venu de loin, d'une intensité menaçante. Yémin sentit ses cheveux se dresser sur sa nuque. Kenneth endossa à la hâte sa veste propre, ajusta son col et ses manchettes.
« Il faut sans doute que j'aille voir de quoi il retourne, »
dit-il, mais Yémin devina que sa nonchalance était feinte.
« C'est le petit tapage dans la coursive qui aura troublé le navire. »
Yémin ne répondit pas, mais il lui ouvrit la porte. Le pirate sortit précipitamment. Yémin le suivit avec moins de hâte. En passant devant la porte d'Althea, il surprit un chuchotement. Il s'arrêta pour écouter, l'oreille au chambranle. La pauvre femme parlait toute seule et sa voix était si basse et si rapide qu'il ne distinguait aucun mot. Il resta un instant indécis puis se dépêcha de rattraper Kenneth. Il allait atteindre la porte quand Eta pénétra dans la coursive. Elle marchait très droite, le visage impassible. Il leva les yeux pour croiser son regard.
« Ça va ? »
demanda-t-il.
« Bien sûr que non. »
Sa voix était douce et neutre.
Sorcor envoie son canot. Je dois rassembler quelques affaires. Eta, j'ai parlé à Kenneth. Je lui ai demandé de ne pas vous renvoyer.
Elle parut se figer dans l'immobilité. Sa voix lui parvint de très loin.
Tu voulais sans doute bien faire. Eta, vous devriez lui dire que vous attendez un enfant. Cela peut tout changer.
Tout changer.
Son sourire était crispé.
Ah! Kenneth a déjà tout changé, Yémin. Je n'ai pas besoin d'en rajouter.
Elle allait s'éloigner. Il osa la retenir par le bras. Eta, je vous en prie, dites-lui.
Il serra les mâchoires pour s'empêcher d'en prononcer davantage. Peut-être, si Kenneth savait qu'elle était enceinte, il ne l'écarterait pas pour s'approprier Althea. Il changerait sûrement d'avis. Qui resterait insensible à cette nouvelle?
Eta secoua lentement la tête comme si elle entendait ses pensées. « Yémin, Yémin, tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Pourquoi crois-tu que j'ai été si secouée? Parce que je suis enceinte? Parce qu'elle a frappé Kenneth jusqu'au sang ?»
Yémin haussa les épaules, incapable de répondre. Eta pencha la tête vers lui.
« J'ai eu envie de la tuer. J'ai eu envie de faire n'importe quoi pourvu qu'elle se taise. Parce qu'elle disait la vérité et que je ne pouvais supporter de l'entendre. Ta tante n'est pas folle, Yémin. » Du moins pas plus folle que n'importe quelle femme après un viol. Elle a dit la vérité. Vous ne pouvez pas le savoir.
Sa bouche était si sèche qu'il pouvait à peine former les mots. Eta ferma brièvement les yeux.
Cette révolte, chez une femme, rien d'autre ne peut la provoquer.
Je l'ai reconnu chez Altea Vestrit. Je l'ai vu trop souvent, je l'ai ressenti moi-même. »
Yémin jeta un coup d'œil vers la porte close. La trahison le sidérait. La croire lui faisait trop mal. Il se raccrochait au doute.
« Mais pourquoi ne l'avez-vous pas confondu ?»
Elle le fixa d'un regard pénétrant en tournant la tête pour tâcher de comprendre comment il pouvait être signé.
« Yémin, je te l'ai dit. La vérité était déjà assez dure à entendre. Je n'ai pas envie de la vivre. Kenny t'a raison. Il vaut mieux que je reste quelque temps à bord de la Marietta. »«
Jusqu'à quand ? »
demanda-t-il. Elle haussa une épaule avec raideur. Les larmes miroitèrent dans ses yeux. D'une voix tendue, elle dit très bas.
« Il peut se lasser d'elle. Il peut vouloir que je revienne. »
Elle se détourna.
« Je dois préparer mes affaires, »
murmura-t-elle d'une voix rauque. Cette fois, il ne la retint pas. Ils le regardaient tous. Kenneth sentait les yeux de tous les hommes d'équipage qui suivaient sa progression. Il n'osait pas se dépêcher. La prise de bec entre les deux femmes était suffisamment fâcheuse. On ne le verrait pas courir à l'appel du navire, aussi pressant soit-il.
« Kenneth !»
hurla la figure de proue en rejetant la tête en arrière. À côté du navire, dans les eaux crépusculaires, les serpents arquaient le dos et replongeaient en fouettant de la queue. Leur agitation faisait bouillonner la mer. Il grinça des dents pour garder une expression affable et continua son chemin en boitant. L'altercation avec Altea lui avait laissé quelques bleus qui commençaient à lui cuire. L'échelle menant au gaillard d'avant était contrariante, comme toujours, et tandis qu'il y grimpait péniblement, le navire criait son nom. Lorsqu'il arriva près de la figure de proue, il était couvert de sueur. Il inspira pour affermir sa voix.
« Navire, me voici. Que veux-tu ?»
La figure de proue pivota pour le regarder, et il eut le souffle coupé. Ses yeux étaient devenus verts, pas d'un vert de serpent, mais d'un vert humain, et ses traits avaient perdu l'expression reptilienne dont ils étaient empreints ces derniers temps. Elle ne ressemblait pas du tout à l'ancienne Vivacia, mais assurément, ce n'était plus Foudre. Il faillit reculer.
« Me voici, moi aussi. Ce que je veux Altea Vestrit ici sur le pont. » Je veux aussi sa compagne, Jack, et je les veux ici, tout de suite. »
Kenneth réfléchissait à toute vitesse.
« Je crains que cela ne soit pas possible, Foudre, »
hasarda-t-il. Il utilisa le nom à dessein et attendit sa réaction. Le navire lui adressa le regard le plus méprisant qu'il eût jamais à soutenir de la part d'une femme.
« Tu sais très bien que je ne suis pas Foudre, »
répondit-elle.
« Alors tu es Vivacia ?»
demanda-t-il tranquillement.
« Je suis moi-même, dans mon intégrité. Si tu dois m'appeler par mon nom, alors appelle-moi Vivacia, car cette partie de moi est aussi intègre que le bois dont je suis faite. Mais je ne t'ai pas appelé pour discuter de mon nom ou de mon identité. Je veux qu'on amène Altea et Jack ici. » Tout de suite.
Pourquoi ?
Fit-il d'une voix aussi maîtrisée que celle de la figure de proue.
Pour les voir par moi-même. Pour m'assurer qu'elles n'ont pas été maltraitées.
Ni l'une ni l'autre n'ont été maltraitées,
déclara-t-il avec indignation. Les plis autour de la bouche s'affaissèrent.
Je sais ce que tu as fait,
dit-elle carrément. Durant un instant, tout s'immobilisa autour de Kenneth. De tous les côtés, c'était le désastre. Sa chance avait-elle fini par l'abandonner? Avait-il commis l'erreur irréparable? Il respira.
« Es-tu donc si prompte à croire du mal de moi ?»
Vivacia lui lança un regard indigné.
« Comment peux-tu me poser cette question ?»
Elle n'était pas absolument certaine. Elle le devina à sa réaction. Naguère, elle l'avait aimé, d'une façon plus douce que foudre. Pouvait-il réveiller en elle ce sentiment? Il promena une main agissante sur la lys.
« Parce que tu vois avec ton cœur et non avec tes yeux. Althea croit qu'elle a subi une horrible épreuve, et donc tu la crois. »
Il marqua une pause théâtrale. Il baissa la voix.
« Navire, tu me connais. Tu as été à l'intérieur de moi. Tu me connais mieux que personne. »
Il se hasarda.
« Tu m'en crois capable ?»
Elle ne répondit pas directement.
« C'est le plus grand préjudice que l'on puisse causer à une femme ou à un dragon femelle. Cela me révolte, cela me dégoûte au plus haut point. Si tu as fait cela, Kenith, c'est irréparable. La mort même ne pourrait racheter cet acte. »
Il y avait plus que de la fureur humaine contenue dans sa voix. C'était une implacabilité d'une froideur reptilienne. Au-delà de la vengeance, au-delà des représailles, jusqu'à l'anéantissement. Un frisson lui parcourut l'échine. Il agrippa la lys pour se soutenir. Il se justifia d'une voix tendue.
« Je t'assure, je ne veux aucun mal à Althea Vestrit. La blesser, l'offenser, irait à l'encontre de tous les espoirs que je nourris pour elle. »
Il prit une grande respiration et se livra au navire.
« Pour dire la vérité, depuis qu'elle est montée à bord, je me suis pris pour elle d'une grande tendresse. Les sentiments que je lui porte m'étonnent, me déconcertent. Je ne sais trop comment réagir. »
Ces dernières paroles, au moins, avaient l'accent de la sincérité. Un long silence suivit ces mots. Alors, la figure de proue demanda à mi-voix.
« Et qu'en est-il d'état ? »
Qui était la plus forte dans le navire ? Vivacia ou Foudre ? Foudre avait paru apprécier État. Vivacia n'avait jamais caché sa jalousie.
« Je suis déchiré, »
avoua Kenith.
« État est à mes côtés depuis longtemps. Je l'ai vu se développer, dépasser de loin la vulgaire putain que j'ai sauvée du bordel de Bethel. Elle s'est améliorée dans bien des domaines, mais elle doit souffrir de la comparaison avec Althea. »
Il marqua une pause et soupira légèrement.
« Althea, c'est un tout autre genre de femme. Sa naissance, son éducation se révèlent dans chacun de ses gestes. Et il y a en elle une compétence que je trouve attirante. Elle est plus comme toi. Et je l'avoue, une grande part de sa séduction tient à ce qu'elle fait partie de toi. » La famille qui t'a façonné l'a engendrée. Être avec elle, c'est en sens être avec toi. »
Il espérait qu'elle serait flattée. Il retint son souffle et attendit. Autour d'eux, la nuit s'épaississait. Les serpents devenaient des bruits désincarnés. Leur étrange mélopée se mêlait aux éclaboussements intermittents de leurs évolutions. Dans la complète obscurité, leurs corps miroitants, écailleux, jetaient de brefs éclairs sur les vagues autour du navire.
« Tu as tué Parangon, »
dit-elle à mi-voix.
« Je le sais. Foudre l'a vu, j'ai ses souvenirs. »
Il secoua la tête.
« J'ai aidé Parangon à mourir. C'est ce qu'il voulait. Il a essayé de se tuer à maintes reprises. Je n'ai fait que lui faciliter la tâche. »
« Brachen, mais t'es cher. »
La voix du navire était étranglée.
« Je suis désolé. Je ne m'en étais pas rendu compte. En tout cas, cet homme a été un vrai capitaine jusqu'à la fin. Il n'a pas voulu quitter son navire. »
Il y avait du regret et de l'admiration dans sa voix. Il poursuivit plus bas.
« Tu as les souvenirs de Foudre. » Alors tu peux te rappeler qu'elle voulait la mort d'Althea. Je la lui ai refusée. Et que se rappelle-t-elle du viol d'Althea ?
Le mot effleura à peine ses lèvres.
Rien,
admit le navire.
poudre refusait d'entrer en contact avec elle, mais je sais ce qu'il y a dans la mémoire d'Althea. » D'une voix pleine de bonté, nourrie par le soulagement, Kenneth repartit.
Althea se souvient d'un cauchemar, d'un rêve induit par le pavot et non d'un fait réel. Ses rêves sont particulièrement nets. Je ne lui en veux pas, ni à toi, de croire à la réalité de ce cauchemar. Je m'en veux à moi. Je n'aurais pas dû lui donner du sirop de pavot. Je ne pensais pas à mal. Je voulais seulement l'aider à se reposer, lui laisser le temps d'assimiler la tragédie qui a changé sa vie.
« Kenneth, Kenneth !»
s'exclama le navire sur un ton angoissé.
« Tu m'es devenu cher. Cela me fait mal de te croire capable de ça. Pour que j'admette que tu aies pu commettre un acte aussi vil, il faudrait que j'admette avoir été dupé et trompé sur ta nature même. Si c'est le cas, tout ce qui a été vrai entre nous deviendra mensonger. »
Elle baissa la voix jusqu'au murmure.
« je t'en prie, dis-moi qu'elle s'est trompée. Dis-moi que tu n'aurais jamais pu commettre un acte aussi odieux. »
Ce qu'on a très envie de croire devient réel.
« Je te le prouverai. Je vais faire amener Althea et Jack ici. Tu constateras par toi-même qu'elles n'ont subi aucun mauvais traitement. Althea a peut-être quelques bleus, mais... »
Il gloussa piteusement.
« Probablement moins nombreux que ceux qu'elle m'a infligés. Elle n'est pas très grande, mais elle a de l'énergie. »
Un faible sourire apparut sur la figure de Prue.
« En effet, elle a toujours eu de l'énergie. Tu vas l'amener ici ?»«
Immédiatement, » promit-il.
Il tourna la tête alors que Yémin surgissait sur le gaillard d'avant. Kenneth l'observa quand il jeta son premier regard sur la figure de Prue transformée. Ses yeux sombres, si troublés l'instant d'avant, s'allumèrent. La vie lui revint, afflua à son visage, on aurait dit une statue qui s'animait. Il s'élança avec passion. Kenneth vint en titubant se placer entre eux.
Voilà qui n'allait pas du tout. Le navire était à lui, il ne pouvait laisser Yémin réaffirmer ses droits à sa propriété.
Promptement, il prit un trousseau de clés dans sa poche.
« Tiens, fiston !»
s'exclama-t-il en le lançant. Les clés miroitèrent à la lumière du fanal avant que Yémin les rattrape. Ses yeux, qui s'étaient illuminés à la vue de Vivacia, se ternirent. Il adressa à Kenneth un regard étrangement pénétrant. Kenneth le déchiffra sans peine. Yémin cherchait qui croire. Le pirate écarta le problème. S'interroger, ce n'était pas savoir. Sa chance tenait bon. Il scruta le garçon dans l'obscurité. Avec un serrement de cœur, il se demanda s'il pourrait se séparer de Yémin au cas où il y serait contraint. L'idée le consternait. Mais si le garçon l'y forçait, il faudrait faire en sorte que la séparation ne compromette pas sa chance ni ne lui aliène l'équipage. Et s'il mourait au service dévoué de Kenneth, on pourrait peut-être arranger ça. L'équipage trouverait peut-être stimulant d'être témoin d'une telle abnégation. Il le regarda, le pleurant déjà, puis se cuirassa en songeant à la rigueur de la vie.
« Yémin !»
s'exclama-t-il chaleureusement.
« Comme tu le vois, Vivacia nous est revenue. Elle désire voir ta tante Althea. Amène-la sur le pont avec Jack, s'il te plaît. Installe-les confortablement pour le moment. Je veillerai moi-même à ce qu'on emménage l'ancienne cabine d'Althea, qu'elle puisse l'occuper toutes les deux. »
Il se retourna vers le navire, mais ses paroles étaient aussi destinées à Yémin.
« Je ferai tout mon possible pour qu'elle soit à l'aise. Tu verras, dans les prochains jours, qu'elles sont mes hôtes honorées et non mes prisonnières. »
C'était l'âge sans doute, mais c'est Jack qu'il délivra d'abord de ses chaînes.
« Vivacia vous veut toutes les deux sur le gaillard d'avant, »
commença-t-il, mais avant qu'il ait pu ajouter autre chose, la femme blonde lui avait arraché les clés des mains et trituré la serrure. Une fois libre, elle bondit sur ses pieds et baissa sur lui des yeux bleus et froids. On voyait sa peau brûlée à travers les vêtements rongés par le venin des serpents. Malgré ses blessures, c'était une femme forte et imposante.
« Où est Althea ? »
demanda-t-elle impérieusement. Elle le suivit à travers le navire et, arrivée devant la porte, elle l'écarta. Elle fit tourner la clé et ouvrit, pour voir Althea fondre sur elle et lui asséner un grand coup d'épaule dans le sternum.
« Althea ! »
s'exclama-t-elle en prenant sa compagne dans ses bras pour l'empêcher de se débattre.
« C'est moi, c'est Jake, calme-toi !»
Althea cessa bientôt de lutter. Elle rejeta la tête en arrière pour regarder Jake. Elle était hirsute, ses papilles dilatées étaient comme des trous noirs. Son haleine empestait le vomi.
« Il faut que je le tue !»
dit-elle d'une voix grinçante. Sa tête ballottait. Elle s'accrocha à l'épaule de son ami.
« Promets-moi que tu vas m'aider à le tuer !»«
Althea, qu'est-ce qui ne va pas ?»
Jake tourna un regard furibond vers Yéma.
« Qu'est-ce qu'on lui a fait ?»« Il m'a violée !»
halta Althea.
« Kenick m'a violée. Il venait dans ma chambre, il faisait semblant d'être gentil, il m'embrassait, et puis... Et puis mon navire, il a enfermé mon navire tout en bas, il ne pouvait plus rien voir ni sentir le vent !»
Jake regarda Yéma par-dessus la tête penchée d'Althea, horrifié par les divagations de son ami.
« Ça va aller maintenant, »
dit-elle faiblement. Ses yeux étaient incertains.
« Vivacia te réclame !»
annonça précipitamment Yéma. C'était ce qu'il avait trouvé de plus réconfortant à dire.
« Elle veut que tu viennes immédiatement !»«
Mon navire !»
bredouilla Althea dans un demi-sanglot. Chancelante, elle se libéra de l'étreinte de Jake et s'engagea en tanguant dans la coursive.
« Qu'est-ce qu'elle a ?»
demanda Jake à Yéma. Une fureur froide se lisait dans ses yeux.
« Trop de pavots !»
expliqua-t-il, puis il s'aperçut qu'il parlait dans le vide. Elle s'était précipitée derrière Althea. Jamais le gaillard d'avant n'avait paru si lointain. Althea avançait dans un rêve. L'air était solide autour d'elle, mais si elle s'y accotait, il cédait trop facilement. Elle s'ouvrit un passage dans la descente des cabines, une épaule collée à la paroi. Le pont, enfin, qui s'étirait sur des lieux devant elle. Elle se mit au défi de les affronter. Alors, Jake fut à ses côtés et lui prit le bras. Sans un mot, elle s'appuya sur sa compagne et avança pas à pas. Des larmes lui brûlaient les yeux. Elle avait l'impression de franchir le temps autant que la distance. Elle s'éloignait enfin de ses décisions insensées vers le lieu qui lui était destiné. Elle avait perdu Brashen et le pauvre parangon et les matelots qui avaient fait avec eux cette longue route. Kenneth avait brutalisé son corps. Le navire était toujours entre ses mains, mais d'une certaine façon, si seulement elle pouvait atteindre le gaillard d'avant et regarder une fois encore Vivacia dans les yeux, elle en viendrait à bout. Elle n'aurait pas moins mal, le chagrin ne serait pas allégé, mais elle aurait encore une raison de vivre. Kenneth, ce fils de chienne, se tenait toujours sur le gaillard d'avant. Il avait le front de la regarder avancer et de lui sourire avec bienveillance. Il s'éloigna de la descente quand elle s'approcha. Il devinait sans doute que s'il restait trop près, elle essaierait de le faire tomber et qu'il se casserait le cou.
« L'autre pied maintenant, » dit Jake à mi-voix, « sur le barreau suivant. »«
Quoi ? » ?»«
De quoi parlait-elle ? » ?»«
Voilà. »
Althea se sentit brusquement soulevée et propulsée sur l'échelle. Elle joua faiblement des pieds et des mains, trouva une prise, puis Jake la poussa sans cérémonie jusqu'en haut. Elle atteignit le pont en rampant sur les mains et les genoux, sachant que ce n'était pas le bon moyen pour avancer, mais incapable d'y arriver autrement. Puis Jake apparut à côté d'elle et la hissa sur ses pieds.
« Laisse-moi, »
dit Althea simplement.
« Je veux y aller seule. »«
Vous n'êtes pas bien ?»
intervint Kenneth avec sollicitude.
« Je ne vous en veux pas. »«
Salaud !»
cracha-t-elle, et elle crut qu'il s'était rapproché. Elle lui décocha un coup de poing, mais voilà qu'il se tenait là, au même endroit que tout à l'heure, le lâche.
« Je vais quand même vous tuer, mais pas sur mon pont. Vous ne le tacherez pas de votre sang. »«
Althea !»
La voix bien-aimée était bouleversée, mais il y avait autre chose, quelque chose qu'elle ne pouvait définir. Elle se retourna, et après un instant de flottement, elle découvrit Vivacia qui la regardait avec inquiétude. Elle aurait dû avoir l'air heureuse.
« Ça va aller, »
assura Althea.
« Je suis là maintenant. »
Elle voulut courir vers la figure de proue, mais elle ne put que tituber. Jack se retrouva à nouveau à côté d'elle et l'aida à gagner la lisse.
« Je suis là maintenant, navire, »
dit-elle enfin,
« après tous ces longs mois. »
Puis,
« Que t'a-t-il fait? Que t'a-t-il fait ?»
C'était Vivacia, et ce n'était pas elle. Ses traits étaient subtilement changés. Ses yeux étaient trop verts, l'arc de ses sourcils trop prononcé. Sa chevelure était tout ébouriffée et lui faisait comme une crinière. Pour autant, ce fut quand elle s'agrippa à la lisse qu'elle sentit la différence. Autrefois, elle s'ajustait comme les éléments d'un jeu de patience, elle se complétait. Maintenant, c'était comme si elle serrait les mains de Jack ou la lisse de Parangon. C'était Vivacia, mais elle était complète sans Althea. Or, Althea n'était pas complète sans Vivacia. Les endroits que le navire devait remplir étaient toujours vides et plus atrocement douloureux que jamais.
« Je suis une désormais, »
confirma doucement la vive nef.
« Les souvenirs de ta famille se sont amalgamés au dragon. Il fallait qu'il en soit ainsi, Althea. Impossible de revenir en arrière en lui déniant le droit d'exister, comme il lui était impossible de continuer vraiment sans moi. Tu ne m'en veux pas pour ça, n'est-ce pas? Tu ne m'en veux pas d'être entière maintenant ?
« Mais j'ai besoin de toi !»
L'exclamation lui échappa avant qu'elle ait songé à sa signification. C'est terrible de lâcher devant tout le monde une vérité qu'on n'a jamais reconnue devant soi-même.
« Comment serais-je moi-même sans toi ?»«
Comme avant !»
répondit le navire, et Althea perçut les échos de la sagesse de son père et d'une sapience plus antique encore.
« Mais j'ai mal !»
s'entendit-elle dire. Les mots jaillissaient d'elle comme le sang d'une blessure.
« Tu guériras, »
affirma Vivacia.
« Tu n'as pas besoin de moi. »
Cette certitude lui fit tourner la tête. Avoir parcouru tout ce chemin, peiné si dur, perdu autant, seulement pour faire cette découverte.
« L'amour peut exister sans le besoin. »
fit remarquer doucement Vivacia. Dans la mer, sous la proue, plusieurs serpents s'étaient dressés et les regardaient gravement. Ses yeux la trompaient-ils? Le jaune vert là-bas était tout contrefait. De quelque part, Yémin était arrivé et agrippait la lisse à côté d'elle.
« Oh, navire, comme tu me parais beau !»
s'exclama-t-il. Althea sentit une étrange tension le quitter.
« Tu es censé maintenant, tu es complet. Va-t'en !»
ordonna Althea distinctement.
« Tu as besoin de repos, »
dit-il doucement, mielleux, faussement courtois, comme Kenith. Elle voulut le frapper, mais il rejeta la tête en arrière.
« Va-t'en !»
cria-t-elle. Les larmes, des larmes inutiles, se mirent à couler sur ses joues. Où était passée sa force ? Elle chancela en comprenant que le navire ne se tendait pas vers elle, ne l'épaulait pas dans l'adversité. Vivacia déclara à mi-voix.
« Tu ne dois compter que sur toi-même maintenant, Althea, comme chacun d'entre nous. » C'était comme si sa propre mère l'avait repoussée.
« Mais tu étais avec moi. Tu sais ce qu'il m'a fait, comment il m'a fait mal. »
« Pas exactement, »
répondit doucement le navire. Et par ces mots, la séparation était consommée. Le navire était un être indépendant d'elle,
qui pouvait se méprendre sur elle comme n'importe quel être humain, et refuser de la croire.
« Je sais que ta souffrance est réelle, » avança Vivacia. « C'est que, peut-être, je te connais trop bien, Althea. Toutes ces années que tu as passées à bord, tous les rêves que tu as faits avec moi avant mon éveil, je les ai partagés, tu sais. Et ce n'est pas la première fois que tu es tourmentée par ce cauchemar. »
Il y eut un silence embarrassé, puis elle ajouta
« Devon, t'as causé un grand préjudice, Althea, et ce n'était pas ta faute. Jamais ce n'a été ta faute, pas plus que la mort de Brachen. »
Elle baissa la voix jusqu'au murmure.
« Tu ne mérites pas d'être puni. »
Vivacia s'était trop approchée d'une vérité qu'Althea ne voulait pas entendre, qu'elle ne pouvait supporter pour le moment. Tous les rapports entre la souffrance et la faute, entre son maudit entêtement et la mort de ceux qu'elle aimait et les malheurs qui lui arrivaient parce qu'elle les méritait, la cause et l'effet se mirent à tournoyer follement autour d'elle. Si elle n'avait pas bravé sa mère en embarquant avec son père, sa mère l'aurait aimée davantage. Elle n'aurait pas donné le navire à Kefria, et Kefria ne l'aurait pas méprisé toutes ces années, et rien ne serait arrivé, et Parangon n'aurait pas sombré, et Brachen ne serait pas mort, et Ambre, et le petit Cliff. Comment pouvait-elle même penser à lui?
« Il faut que je retourne dans ma chambre, »
supplia-t-elle d'une voix éraillée.
« Je te ramène, » dit Jack.
Yémin frappa prudemment à la porte de sa chambre, puis sursauta quand Jack l'ouvrit à la volée. L'espace d'un instant, il resta là, muet, à contempler la femme du Nord. Il finit par retrouver l'usage de sa langue.
« Kenneth a pensé que vous pourriez avoir envie de vêtements féminins. »
Elle lui jeta un regard noir, comme s'il l'avait offensé, mais recula et lui fit signe d'entrer.
Althea était assise sur la couchette, les genoux repliés sur la poitrine. On avait installé une paillasse par terre pour Jack. Sa tante paraissait aller mieux, hagarde mais lucide. D'après la tension qui régnait dans la pièce, il comprit qu'il avait interrompu une dispute. Sa tante jeta un regard de dédain sur son fardeau de chiffon qui lui glissait des mains.
« Rapporte-les, je n'accepte rien de lui. »«
Attendez !» intervint Jack. Elle adressa un regard d'excuse à Althea.
« Je ne me suis pas changé depuis qu'on a chaviré, j'en ai assez de sentir mauvais. »
Elle grimaça et ajouta à contre-cœur.
« Et toi, tes habits empestent le vomi. »«
Tu ne vois pas ce que c'est, ces robes ?»
s'emporta Althea.
« C'est de la corruption. » Et si j'en porte une, je serai considéré comme une putain qu'on achète avec des nippes. On ne me croira jamais.
Je ne pense pas que c'était dans son intention,
dit Emma à mi-voix. Il se doutait que le cadeau avait pour but de gagner l'approbation du navire plutôt que celle d'Althea, mais le regard qu'elle lui lança le fit taire. Il ne savait pas comment engager la conversation.
Laisse-lui du temps, se dit-il. « Laisse-la commencer la première. »
Il referma la porte derrière lui avant de déposer sa brassée de vêtements au pied de la couchette. Il se déchargea aussi d'une cassette de bijoux et de flacons de parfum. Jack haussa un sourcil à la vue du trésor, puis regarda Althea.
« Ça t'ennuie si je jette un coup d'œil ?»«
Je m'en fiche, »
dit Althea en mentant.
« Tu m'as déjà bien fait comprendre que tu doutais de mon histoire. »
Jack ouvrit la cassette à bijoux. Elle déclara en contemplant son contenu scintillant.
« Tu ne mens pas, Althea. »
Elle respira profondément et ajouta avec réticence.
« Ce sont les circonstances qui me font douter. Toute cette histoire est absurde. Pourquoi t'aurait-il violé? Il a une femme à lui, il a interdit le viol sur son navire et il a la réputation d'être un homme d'honneur. » À partage, personne n'a dit de mal de lui. Il m'a vu deux fois par jour et m'a traité avec courtoisie, si j'accepte les chaînes.
Vivacia elle-même est scandalisée à l'idée qu'il ait pu commettre un tel acte. Elle fouilla parmi les vêtements et tint contre elle une jupe d'un bleu doux.
« Je ne grimperai pas dans la mâture avec ça, » fit-elle à part soi. Althea ne se laissa pas distraire par son humour.
« Alors tu crois que tout ça est un rêve dû au pavot ?»
demanda-t-elle farouchement. Jack haussa les épaules.
« Il m'a donné du sirop de pavot dans de l'eau de vie pour mes brûlures. Ça m'a fait du bien. Mais à moi aussi, ça m'a donné des rêves bien réels. »
Elle fronça les sourcils.
« Je déteste ce type, Althea. Sans lui, mes amis seraient encore vivants. Malgré tout, il montre un sens de l'honneur qui... »«
Ce n'était pas un rêve. »
Althea tourna un regard accusateur vers Yéma.
« Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Tu es devenu un petit toutou, hein? Tu lui as cédé le navire de ta famille sans résistance. »
Avant que Yéma ait pu se défendre, Jack intervint.
« Mets-toi à ma place, Althea. » « Et si je te disais que Brashen m'a agressé ? Pense un peu comme ce serait difficile pour toi de l'accepter. Tu as subi une terrible épreuve. Tu as failli te noyer et à peine repêché, tu découvres que ton navire a sombré corps et biens avec Brashen. Tu as du chagrin. Il est normal que tu haïsses Kenith et que tu le crois capable de tout. Il y a de quoi te détraquer la cervelle. »
« Ça ne t'a pas détraqué la cervelle à toi ?»
Jack ne répondit pas tout de suite. Enfin, elle reprit d'un ton plus bas.
« Je pleure à ma manière. Ambre n'était pas une rencontre de hasard. Je me suis coupé une mèche de cheveux en signe de deuil. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes cela. Mais j'ai perdu une amie, pas mon amant.
Tu as perdu Brashen.
Il est normal que cela t'affecte plus profondément. »
Les paroles de Jack se déposèrent dans l'esprit de Yéma et l'abasourdirent. Il regarda sa tante, les yeux écarquillés, incapable d'imaginer une chose pareille. Devant son expression choquée, Althea lui décocha un regard noir.
« Oui, je couchais avec Trell. Je suppose que tu partages l'opinion de ta mère là-dessus. On ne peut pas violer une putain, c'est ça, Yéma ?»
L'injustice de ses remarques excita la colère du garçon. Il tint bon. Supporter le caractère d'État lui avait appris au moins à montrer un peu de courage.
« Je ne t'ai pas condamné, » dit-il pour se défendre. « J'étais seulement surpris. J'ai le droit d'être étonné. On ne s'attend pas à ça de la part d'une fille de marchand, mais cela ne veut pas dire que... »«
Va te faire foutre, Yéma !»
riposta-t-elle férocement.
« Parce que je n'en attends pas moins du fils de Kyle Havre. »
Ces mots le blessèrent plus que de raison. Il s'efforça de maîtriser sa voix.
« Ce n'est pas juste. Tu en veux à tout le monde, alors tu prêtes à mes paroles un sens qu'elles n'ont pas. Tu ne m'as pas donné l'occasion de te parler, je n'ai pas dit que je ne te croyais pas. Tu n'as pas besoin de le dire. Tu es du côté de Kenith. Ça montre ce que tu crois. Sors d'ici et prends ça avec toi. »
Elle tendit la jambe avec mépris et donna un coup de pied dans le coffre. Il se dirigea vers la porte.
« Peut-être ne suis-je pas du côté de Kenith. Peut-être suis-je du côté de mon navire. »«
La ferme !»
rugit-elle.
« Je n'ai que faire de tes excuses. J'en ai déjà assez entendu. » »«
Si tu continues à te conduire comme une folle, on te traitera comme telle, »
dit-il durement. Il referma la porte derrière lui avec assurance. Il perçut le fracas et le tintement d'un flacon de parfum qui s'écrasait contre le panneau. Dans la coursive à peine éclairée, il ferma brièvement les yeux. Il était forcé d'admettre que certaines des accusations d'Althea étaient justes. Il ne l'aurait pas cru. Son histoire était illogique, invraisemblable. Il doutait que quiconque à bord puisse accorder le moindre crédit à ce qu'elle racontait sur Kenith. Sauf lui. Et ce n'était pas Althea qu'il croyait sur parole. C'était État.